Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, l'Europe doit-elle décourager les migrations africaines ? Si c'est un hasard, alors il fait bien les choses. Le pacte de l'ONU sur les migrations, qui vise à renforcer la coopération internationale en la matière, a été signé ce lundi à Marrakech, le jour du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle déclaration affirme notamment que toute personne a le droit de circuler librement. Bien que non contraignant, ce pacte ne fait pas l'unanimité, les États-Unis n'y ont pas adhéré, et plusieurs pays, européens pour la plupart, viennent de s'en éloigner, l'Italie, l'Autriche, la Bulgarie, la Pologne, ou encore la République tchèque, ce qui donne un aperçu une nouvelle fois des divisions européennes sur la question migratoire. L'Europe aurait pourtant intérêt à avancer groupée eu égard aux défis qui l'attendent. Les migrations internationales vont se poursuivre, le vieux continent fait partie des destinations, l'Afrique en est un des points de départ. Et ce n'est qu'un début si l'on en juge par les prévisions démographiques. D'ici à 2050, la population africaine devrait doubler, entraînant mécaniquement une augmentation des migrations. Oui, mais quelle sera l'ampleur de cette pression migratoire ? De la réponse à cette question va dépendre le choix des politiques à mener sur le continent africain comme sur le continent européen. Problème, les experts ne sont pas d'accord et le sujet est éminemment sensible politiquement. Alors l'Europe doit-elle décourager les migrations africaines ? C'est la question du jour en compagnie de deux invités. Stephen Smith, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et écrivain. Vous avez longtemps travaillé pour Libération et pour Le Monde. Vous êtes aujourd'hui professeur à l'université de Duke aux États-Unis. Vous enseignez les études africaines et vous avez publié en début d'année chez Grasset La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route pour le vieux continent. Pour discuter avec vous, François Gemène, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, professeur à Sciences Po, vous dirigez à l'Université de Liège, l'Observatoire Hugo, qui est un centre de recherche consacré aux migrations et à l'environnement. Et vous avez publié en septembre avec Pierre Verberen aux éditions Espace de Liberté, Au-delà des frontières, pour une justice migratoire. Alors avant que de tenter de répondre à la question qu'on pose ce soir, je voudrais qu'on essaie d'agir avec un petit peu de méthode et essayer d'estimer ce que sont les migrations africaines aujourd'hui. Est-ce que d'abord on peut dire que en 2018, le continent africain est un continent qui connaît de fortes migrations, Stephen Smith?
Non, pas du tout. On est à peu près dans la normale de la décennie dernière, c'est-à-dire en moyenne, c'est 200 000 personnes qui viennent en Europe. Donc on est tout à fait dans ce à quoi on s'était habitué depuis les années 90. Et je pense qu'il faut bien distinguer. Très souvent, j'étais la semaine dernière en Allemagne, j'ai fait attention de dire aux gens, surtout, n'ayez pas 2015 à l'esprit, d'une part parce que je ne parle pas de réfugiés, et c'est une crise de réfugiés. D'autre part, ne voyez pas ça comme une sorte d'irruption. Je ne sais pas comment les uns et les autres l'ont vécu, mais en tout cas, je parle d'une migration structurelle qui ne part pas du tout de catastrophes écologiques, naturelles ou politiques en Afrique, qui est une migration structurelle liée à la transition démographique de l'Afrique, donc qui se situe à l'horizon de 2050.
Donc en tout cas, vous dites, c'est pas un continent aujourd'hui de forte migration. Je précise d'ailleurs que quand on va parler d'Afrique aujourd'hui, on va surtout sans doute parler de l'Afrique subsaharienne. François Gemène, c'est vrai que quand on regarde les chiffres de la Banque mondiale, le taux d'émigration pour l'Afrique subsaharienne est assez faible aujourd'hui, peut-être d'ailleurs si on compare par rapport à d'autres zones géographiques.
Moi je dirais au contraire que c'est un continent de très forte migration. Il y a de circulations intérieures à l'intérieur du continent africain qui sont très très importantes et l'Afrique est un continent qui est particulièrement mobile. Là où effectivement on a un miroir déformant, c'est qu'on imagine que cette migration vient prioritairement vers l'Europe, alors qu'aujourd'hui c'est une minorité des migrations internationales en provenance d'Afrique qui vient vers l'Europe. L'essentiel des flux migratoires en provenance d'Afrique, ils sont dirigés avant tout vers l'Afrique, soit à l'intérieur de leur propre pays, et la question des migrations internes et de l'exode rural est généralement une question qui est passée sous silence en Europe. Et puis il y a des circulations migratoires tout à fait importantes à l'intérieur du continent, avec notamment des espaces de libre circulation. L'Afrique de l'Ouest est un espace de circulation. L'Afrique de l'Est est en train de mettre en place également un espace de libre circulation. L'essentiel des migrations africaines, elles vont vers l'Afrique.
Alors, vous ne le niez pas d'ailleurs, hein, ce phénomène-là, Stephen Smith, dans votre livre. Sauf que vous dites, il y a une tendance qui est la suivante. Les migrations à l'intérieur de l'Afrique, elles ont tendance à évoluer beaucoup moins rapidement que les migrations à l'extérieur de l'Afrique.
D'abord, j'aime bien me faire comprendre. Donc, lorsque nous parlons en Europe de l'immigration de l'Afrique, je pense que la plupart de nos concitoyens pensent aux migrants africains qui viennent en Europe. Mais bien sûr, l'Afrique est un continent de mobilité. Vous l'avez dit, on peut donner des chiffres. Actuellement, sur 10 migrants africains, 7 restent en Afrique sur leur continent et 3 vont dans le monde, pas tous en Europe. La migration aux États-Unis, par exemple, a fortement augmenté.
Mais ça, est-ce maintenant, que c'est stable ou bien est-ce que
non,
c'est,
ce n'est
ça
pas
change.
Stable si, parce que si vous remontez à 30 ans en arrière, vous vous apercevez que 9 sur 10 restaient en Afrique. Et donc, je pense qu'il est raisonnable, toute la tendance pérenne va vers une augmentation de la part de ceux qui quittent le continent. Nous verrons aussi que la mobilité plus forte d'autres régions est liée au fait que ces régions sont plus développées. Et donc, si vous pensez en plus que la masse totale des migrants augmente, puisqu'on va passer de 1,3 milliard d'Africains à 2,5 dans 30 ans, vous avez donc un pourcentage qui va augmenter sur une masse totale qui va augmenter, je pense qu'il est assez raisonnable de supposer que les migrations vont se renforcer.
Quand on s'intéresse aux chiffres, François Gémen, évidemment, il faut s'intéresser à la photographie du moment et puis il faut s'intéresser à la tendance. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que les chiffres, selon vous, témoignent aussi de ces migrations africaines qui sont en train de progresser, notamment vers le continent européen?
Il y a effectivement une progression des migrations africaines vers le continent européen, comme il y a aussi une progression des migrations africaines vers les États-Unis ou vers d'autres régions du monde, et une progression des migrations à l'intérieur même du continent. Il est certain que, on va y venir dans l'émission bien entendu, mais comme le continent est en croissance démographique, il y a logiquement effectivement une croissance des migrations.
Il y a un effet mécanique, forcément, c'est-à-dire à partir du moment où on a un continent dont la population va approximativement, bien sûr, hein, sont des projections, mais doublé d'ici à 2050. On devrait passer de 1 milliard 200 millions d'habitants en 2017. Ça, sont les chiffres de l'ONU, à 2 milliards et demi en 2050. Et pour l'Afrique subsaharienne, c'est 970 millions pour 2017, 2 milliards 200 millions en 2050. Mécaniquement, ça aura forcément un impact sur les migrations?
Non, ce n'est pas du tout un effet mécanique. Il y a des pays très peuplés qui ont des taux d'émigration relativement faibles. Il y a des pays, à l'inverse, très peu peuplés qui ont des taux d'émigration très forts. Et donc, il n'y a pas de lien mécanique entre la croissance démographique et la croissance du taux d'émigration.
Vous êtes d'accord avec ça, Stéphane Smith?
Je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans le livre, je mets l'accent beaucoup moins sur la croissance démographique en tant que telle. Et je regarde plutôt le profil de cette jeune Afrique. Le chiffre qui m'importe beaucoup plus que les 2,5 milliards de 2050, c'est 40% de la population. Aujourd'hui, c'est la moyenne continentale. Si vous êtes en Afrique centrale, c'est 46% de la population à moins de 15 ans. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre, ce paysage humain si juvénile, si jeune, et dont le paradoxe est peut-être que c'est à la fois une abondance de jeunes gens qui manquent de chance de vie, et d'autre part, ce manque de chance de vie se traduit du fait que c'est des adultes échoués d'une certaine façon. Ils n'arrivent pas à passer à l'âge adulte où ils peuvent avoir leur propre foyer, évidemment un emploi, etc. C'est ces investissements démographiques dont parlait Alfred Sauvy qui m'intéressent, mais je suis parfaitement d'accord que ce n'est pas parce qu'une population augmente que nécessairement, mécaniquement et parallèlement, augmente la migration.
Mais est-ce que vous voyez, vous, Stephen Smith, dans le fait que cette jeunesse qui va être de plus en plus importante, se retrouve peut-être un petit peu coincée dans son pays ou sur son continent? Est-ce que, en tout cas, vous faites une corrélation justement directe entre la structure, on va dire, de la population en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, et son appétence à migrer de plus en plus?
Non, ce serait trop simple. Le profil démographique, c'est-à-dire les classes d'âge, ne vous donne pas non plus une volonté de migrer. Ce que j'essaie de décrire, c'est un univers dans lequel le droit d'aînesse, le principe de seniorité, joue très fortement. Les gens quittent, par exemple, le village pour aller en ville, alors qu'on sait que 2/3 des citadins vivent dans des taudis, mais ils quittent quand même parce que leur avenir semble comme prédéterminé au village, parce qu'ils sont encadrés par des structures patriarcales et cherchent à en sortir. Et quand bien même aujourd'hui, avec les téléphones mobiles, tout le monde sait quelles sont les conditions de vie à Lagos. C'est pas forcément mieux que dans un village. Mais on y va quand même, puisque tout n'est pas économie. On veut s'émanciper et on veut aussi attraper un bout de cette modernité, voir ce qui se passe, ce qu'on voit le soir à l'écran de son téléphone mobile. On voit qu'il y a, à travers les vidéos et tout ça, on voit qu'il se passe quelque chose dans ce monde. On veut en être. Et donc, mon cadrage est beaucoup plus large. Il s'agit de réaliser sa vie, d'attraper ce bout de chance.
Ce qui détermine aujourd'hui les migrations, et notamment les migrations africaines, vers l'Europe, également vers les États-Unis, mais parlons de l'Europe puisque c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui, François Gemène, c'est la conviction que peuvent avoir les migrants qu'ils vivront mieux ailleurs que chez eux.
Il y a plusieurs facteurs. Il y a évidemment cette idée qu'on va migrer pour avoir une vie meilleure, que ça soit une attente réaliste ou pas. Et parfois, on a des comportements irrationnels. Et effectivement, la vie des migrants n'est pas toujours aussi bonne que celle qu'ils espéraient. Il y a parfois des contraintes très fortes, des catastrophes naturelles, des régimes dictatoriaux, des guerres qui les poussent à migrer simplement pour sauver leur vie. Il y a aussi de plus en plus les passeurs qui vont déterminer les itinéraires migratoires. Très souvent, on va avoir des jeunes qui vont migrer de la campagne vers la ville et qui vont essayer de trouver un emploi, qui vont travailler pour un passeur et puis ils vont s'endetter auprès de ce passeur. Le passeur va les emmener plus loin et parfois ils vont se retrouver en Libye où là ils seront maltraités, victimes d'exactions, de tortures, parfois même vendus comme esclaves et où là ils vont chercher à monter sur un bateau simplement pour sauver leur vie, pour échapper à ces violences. Il reste néanmoins un facteur tout à fait déterminant dans la migration, c'est le coût. C'est-à-dire que c'est un investissement considérable pour une famille que d'envoyer un jeune, généralement un fils, en ville pour trouver du travail. Et le coût, évidemment, augmente de plus en plus, plus la distance augmente, notamment parce qu'il y a le coût des passeurs. Et donc, c'est véritablement un investissement, parfois, que vont faire les familles. C'est un facteur tout à fait essentiel.
Alors, c'est justement la question que je voulais vous poser à l'un et à l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, les Africains ont les moyens d'opérer une ruée vers l'Europe, pour reprendre le titre de votre ouvrage, Stephen Smith?
Non, pas encore. Et d'ailleurs, l'objection qui est faite à mon livre de dire, peut-être je suis trop optimiste pour dire qu'on va passer ce premier seuil de prospérité, c'est recevable en soi. Personne n'est en mesure de prévoir, compte tenu de l'économie chinoise, des matières premières qui vont se vendre ou pas vendre, de l'histoire qui nous attend dans les 30 ans. Peut-être je me trompe de 10 ans. Je pense que ça ne change rien au fond de l'argument. Je voudrais simplement ouvrir une parenthèse pour dire que j'abonde dans le sens, et c'est un autre reproche que je pourrais me faire, je n'ai pas eu le matériau pour décrire ce volet, cette dimension criminelle de la migration, dont on pense à tort que c'est juste instrumental, que c'est juste on profite de, à mon avis, cette tuyauterie qui s'est mise en place. Moi, j'ai vécu un certain temps à Agadez, donc je connais un peu, si on peut appeler ça, l'industrie touristique là-bas. Aujourd'hui, elle est au service uniquement de cette migration. Et là, un appel elle-même, le fait qu'on puisse migrer grâce à cette organisation criminelle augmente la migration. Et je trouve que c'est un aspect que je n'ai pas suffisamment développé et qui d'ailleurs ne se trouve développé nulle part. Donc il y a des enquêtes à faire. C'est vraiment extrêmement important.
François Gemène.
C'est évidemment très difficile de prévoir quel sera le développement d'un pays dans 20, dans 30 ans, notamment parce que cette courbe ne suit pas toujours un tracé linéaire. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des bons soudains. Et puis parce que ça va dépendre aussi de notre niveau de développement économique à nous, l'Europe. Si on prend par exemple un pays africain qui a, comme on dit, fait un peu ce bond du développement. Prenons le cas de l'Angola par exemple, qui est sorti d'une guerre civile qui a ravagé le pays et qui est aujourd'hui un pays en plein développement économique. Eh bien par exemple, il y a aujourd'hui davantage de Portugais qui migrent en Angola que d'Angolais qui migrent au Portugal, alors que le Portugal est l'ancienne puissance coloniale dans l'Angola. Simplement parce que le Portugal est ravagé par une crise économique qui touche en particulier les jeunes. Le taux de chômage des jeunes est très important au Portugal et beaucoup de jeunes Portugais pensent, à tort ou à raison, qu'ils auront une vie meilleure ou un salaire meilleur en Angola aujourd'hui. Et donc, c'est des choses qui peuvent aller dans les deux sens.
Oui, mais on n'est quand même pas dans l'agnostisme en quelque sorte. L'exemple est juste, mais l'Angola est un grand pays avec une population assez faible, un pays qui a vécu un boom pétrolier sans pareil. Donc, leur capacité installée est supérieure à celle du Nigeria. Donc, c'est le boom pétrolier. On peut toujours, quand on a la discussion afro-optimiste, afro-pessimiste, chacun prend son exemple et dit, voilà, ça va être...
Vous seriez quoi regarder... plutôt vous plutôt du afro-pessimiste.
Mais en l'occurrence, on me reproche d'être trop optimiste parce que je crois au développement de l'Afrique. Non, mais en règle générale, on dit vous vous attendez à ce qu'on passe les caps de cette prospérité dans les 30 ans, c'est très optimiste. Je ne crois pas, quand vous regardez les grands pays clés qui comptent par leur population, donc prenons le Nigeria, 190 millions d'habitants, vous êtes aujourd'hui dans un revenu par tête habitant qui est très comparable au Mexique au milieu des années 70 lorsque la grande migration mexicaine a commencé. On ne peut raisonner que par rapport à ce qu'on connaît. Donc je pense que les pays comme le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Soudan sont aujourd'hui des pays seuls. Il suffit d'une demi-douzaine de pays en Afrique qui font aujourd'hui les deux tiers de l'économie africaine.
Alors justement, à propos du Mexique, vous avez, c'est un pays que vous prenez en exemple pour essayer de trouver des points de comparaison, Stephen Smith, et vous écrivez notamment ceci. Entre 1975 et 2000, 10 millions de Mexicains ont émigré en Amérique. essentiellement, j'imagine, en Amérique du Nord. Si les Africains suivaient leur exemple d'ici à 2050, l'Europe compterait entre 150 et 200 millions d'Afro-Européens par rapport à 9 millions aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est quelle est la place de cette hypothèse dans votre démonstration? C'est-à-dire, est-ce que vous dites que c'est une hypothèse parmi d'autres ou c'est l'hypothèse la plus probable selon moi?
Non, mais puisque vous avez lu le livre, vous pouvez quasiment vous répondre vous-même.
Je prends oui, mais comme ça n'est pas forcément le cas des auditrices et des auditeurs,
vous voyez
je préfère
très bien.
Que vous répondiez vous-même.
Il y a un certain nombre de... Si cela se produit de la même façon, je parle aussi de la fin de la transition démographique des Européens, je parle des sondages, 40% des jeunes adultes veulent partir. Au Togo, un tiers de tous les adultes a déposé un dossier pour avoir un permis de résidence. Donc je prends tout ce qui est possible d'utiliser pour cerner à peu près cet avenir qui n'est pas évident. Et chaque fois, je dis si ceci, cela. Et donc, parfois, dans la presse, on prend un chiffre, on le fétichise et on dit bon, on va dire qu'il y a 150 millions. Mais c'est toujours lié à des conditions. Et il est très clairement dit dans le livre que tous ces exemples ne servent qu'à indiquer un ordre de grandeur. Comme dans cette conversation, personne ne peut avoir la prétention de vouloir donner un chiffre de migrants dans 30 ans.
Est-ce qu'il faut réfléchir, en tout cas François Gemène, en termes d'hypothèses basses et d'hypothèses hautes en matière de migration africaine vers l'Europe? Et vous qui avez aussi, je crois, regardé le livre de Stephen Smith, qu'est-ce que vous pensez justement de ces hypothèses-là et de celles que je viens d'évoquer?
Je pense que, et c'est le principal reproche que je formulerai au livre de Stephen Smith, même si je suis d'accord qu'il contient beaucoup de choses intéressantes et je partage son analyse, notamment sur les effets inégalitaires des remises d'épargne, donc il y a beaucoup d'éléments intéressants, mais je pense qu'il est trop mécanique en imaginant qu'il va y avoir une sorte de déversement du trop-plein démographique en Afrique vers l'Europe. Et l'histoire, y compris l'histoire des mouvements du Mexique vers les États-Unis, par exemple, montre que ce n'est pas le cas. On se réfère, vous référez beaucoup à l'exemple mexicain, mais aujourd'hui, il y a davantage de flux migratoires depuis les États-Unis vers le Mexique que du Mexique vers les États-Unis. Donc, ça est très cyclique.
Mais entre 1975 et 2010, vous avez 10 millions de Mexicains qui partent. La population du Mexique passe de 60 millions à 120. Donc, on est dans des ordres de grandeur très, très petits par rapport à l'Afrique. Et aujourd'hui, 10% de la population américaine sont des Mexicains ou des Mexico-Américains.
Il y a une différence fondamentale, c'est que entre les États-Unis et le Mexique, les États-Unis sont, on dirait, le pays voisin et la frontière immédiate. En Afrique, à mon sens, il va y avoir bien davantage de la migration vers les pays africains les plus avancés, comme l'Éthiopie aujourd'hui, qui est un pays qui connaît
non,
un développement important.
Sérieusement,
et qui
vous êtes à 400 dollars par tête d'habitant en Éthiopie. Personne ne migre en Éthiopie.
Si, l'Éthiopie attire des migrants aujourd'hui. Et d'autre part, bien sûr, l'Éthiopie est encore très en dessous du seuil, mais c'est un pays aujourd'hui qui connaît un développement assez important. C'est le pays qui a la plus forte croissance de son PIB
oui,
dans le monde.
Oui, en partant du niveau le plus bas.
Bien
mais
sûr,
c'est pour ça qu'ils
c'est
ont
ce que j'ai dit. C'est un pays qui est en plein développement. C'est le pays qui aujourd'hui a le plus fort taux de croissance de son PIB dans le monde.
Combien de personnes à partir de l'Amérique, d'Afrique subsaharienne migrent en Éthiopie? C'est négligeable.
Ce que je dis simplement, c'est que alors que les États-Unis étaient la destination, je dirais, par excellence des Mexicains, les Africains qui veulent migrer vont avoir beaucoup plus de choix, y compris à l'intérieur de leur continent.
Parmi les hypothèses de votre livre, Stephen Smith, alors là, qui est totalement lié à l'exemple précédent que je prenais de la migration mexicaine et qui fait beaucoup réagir, vous écrivez, en 2050, un quart des habitants en Europe et plus de la moitié des moins de 30 ans pourraient être africains. Et vous avez quand même cette phrase d'un grand repeuplement en cours. C'est-à-dire ça, on n'est pas uniquement dans des projections hypothétiques. Vous êtes aussi quand même dans l'idée que ce grand repeuplement qui fait quand même référence, ça est bien, enfin, vous êtes journaliste, écrivain, donc vous connaissez aussi le sens des mots, c'est-à-dire au grand remplacement. Là, on n'est plus dans l'hypothèse, on est dans un constat que vous assumez comme tel.
Mais vous êtes totalement obnubilé par votre discours politique au jour le jour. Je vous donne plusieurs exemples.
Ah, mais je ne crois pas avoir de discours politique, j'essaie de...
Laissez-moi répondre, vous allez voir. Le repeuplement, c'est Achille Mbembe qui en parle. Achille Mbembe est camerounais, ça n'a rien à voir avec le grand remplacement. Ce n'est que parce que vous êtes obsédé par le Rassemblement National que vous dites ça.
Donc c'est parce que je suis obsédé que quand je le lis, je pense...
Le repeuplement,
je pense à cette autre référence.
C'est une expression d'Achille Mbembe que je ne reprends même pas à mon compte. Pour moi, l'africanisation de l'Europe est quelque chose de pas du tout dramatique. Je le dis d'ailleurs, il y avait 30 000 subsahariens en France. dans les années 60. Vous pouvez encore imaginer 30 000 à l'époque. Aujourd'hui, la France s'est africanisée, il n'y a pas eu de drame. Très bien, mais maintenant, si vous levez le regard et vous regardez, là, on vient de dire, il y aura des pays récipiendaires en Afrique. La différence de revenus entre l'Europe et l'Afrique, c'est de 1 à 20. Quel Ivoirien, quel Nigérien va aller dans un pays dont le revenu par tête est de 400 dollars alors qu'il est de 3000 dollars en Côte d'Ivoire? C'est aberrant. Donc ils vont aller à 14 kilomètres de distance, la proximité géographique. Il y a des affinités postcoloniales. Avec 7% de la population mondiale, 50% des dépenses pour la sécurité sociale dans le monde sont faites par les Européens. Si je suis africain, je me mets à la place d'un Africain, j'ai des enfants, je veux une bonne éducation pour eux, je veux sortir de l'insécurité, je veux avoir des chances de vie. Où est-ce que je vais sinon en Europe ?
La bonne stratégie quand on est africain aujourd'hui, quand on élabore un projet de vie, François Gémen, c'est de se dire « j'ai de meilleures chances d'avoir une bonne vie en Europe, davantage qu'en Afrique ».
Je pense qu'on ne peut pas généraliser. Je pense que chaque famille, chaque individu aura son propre projet individuel qui, comme je l'ai dit, dépend aujourd'hui parfois de moins en moins de la volonté individuelle et de plus en plus, malheureusement, de la volonté des passeurs. Et je pense que selon à la fois le projet personnel individuel et selon surtout les moyens qu'on aura à disposition, eh bien la destination va être différente d'une personne à l'autre. C'est pour ça que je ne crois pas du tout à cette idée qu'il va y avoir d'un coup un flux massif d'Africains vers l'Europe. Ce n'est pas du tout ce qu'on constate aujourd'hui. On est revenu aujourd'hui à 140 000, allez, je prends les chiffres au 5 décembre 2018, qui étaient de 134 000 arrivés en Europe, c'est-à-dire des chiffres comparables à ceux qu'on avait en 2010 ou en 2011.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
L'Europe doit-elle décourager les migrations africaines? Nous en discutons en compagnie de François Gémen et de Stephen Smith. Alors je voudrais justement qu'on aille maintenant sur la question de la réponse politique. Il me semble que la réponse, elle dépend aussi de la façon dont on peut envisager ce que sera l'avenir. Donc on voit bien que selon que les prévisions sont basses ou hautes, la réponse peut être un peu difficile. Mais malgré tout, est-ce que vous diriez l'un et l'autre qu'il faut partir sur des principes qui peuvent paraître fondamentaux? Est-ce que ce sont des principes qui seraient d'ordre moral? C'est-à-dire que, bah, comme je rappelais en début d'émission, il y a notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la liberté de circulation, et que c'est ce principe qui doit primer? Ou bien est-ce que ce serait plutôt le principe, disons, d'intérêt qui va être celui du pays qui va accueillir les migrants, c'est-à-dire quel intérêt l'Europe aurait-elle à accueillir des migrants africains? Stephen Smith.
Mais pour commencer, je constate qu'il n'y aura aucune réponse politique tant que les démographes réagissent comme nous réagissons ici dans ce studio. C'est-à-dire, notre point de départ, c'est de dire, détachons-nous des migrations actuelles qui ne sont pas du tout les migrations qu'on prévoit une fois qu'une masse critique d'Africains aura passé un seuil de prospérité, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, on me cite le chiffre de 2017-2018, c'est absolument sans aucune valeur démonstrative. Comment on va se préparer à un avenir quand on ne lève pas la tête? Il faut lever la tête et se rendre compte, quel que soit le chiffre, que l'ordre de grandeur des migrations à venir va faire pâlir 2015 de loin. Mais l'Europe ne s'y prépare pas, l'Afrique pas non plus d'ailleurs. Et donc c'est très bien. Donc on va attendre jusqu'à ce qu'un nombre important d'Africains va partir. Et on dit c'est un projet quasiment individuel. On va s'asseoir en chambre, on va réfléchir où est-ce qu'on va aller. Mais regardez, où vont-ils? Ils vont en Europe. C'est donc pas une vue de l'esprit. Il faut suivre les gens tels qu'ils existent. Ils votent avec leurs pieds tous les jours. Sauf que nous, parce qu'on a peur de réfléchir à la réponse politique, on ne veut pas les voir marcher.
Est-ce que l'Europe se prépare mal aujourd'hui à cette pression migratoire africaine, selon vous, François Gémen, et comment doit-elle y répondre?
Je serais d'accord avec Stephen Smith pour dire qu'effectivement, nous pêchons en Europe comme en Afrique et comme dans la plupart des régions du monde par un défaut d'anticipation et d'organisation de ces migrations. C'est-à-dire que nous nous plaçons toujours dans une logique réactive où on a les flux migratoires qui arrivent, et on l'a vu avec la crise de 2014-2015, et où on est dans une logique un peu du « sauf qui peut », où quelque part on se place dans l'idée qu'on va pouvoir résister aux migrations et qu'il faut voir les migrations comme un problème à résoudre, voire même comme une crise à gérer. Je pense que tout le monde aurait y gagné si on essayait d'organiser davantage les migrations, notamment au niveau international. C'est ce qu'essaye de faire le pacte de Marrakech qui a été adopté ce matin. Mais je pense par contre que si l'on veut s'y préparer rationnellement, il ne faut pas jouer avec des grands chiffres ou des notions comme d'une ruée ou d'un exode massif, et qu'il faut regarder différents scénarios et essayer d'anticiper au maximum les tendances et que quelque part, agiter le spectre d'une ruée sur l'Europe ne pourra conduire qu'au renforcement de politiques de fermeture des frontières et au renforcement, malheureusement, de logiques identitaires et nationalistes en Europe.
Est-ce qu'il faut anticiper ces tendances en ayant aussi pour objectif de les maîtriser, de se dire, par exemple, voici, nous avons besoin approximativement, parce que, par exemple, la population européenne est vieillissante, d'un rajeunissement pour financer notre protection sociale et penser les choses de cette manière? Ou bien est-ce que ça vous semble une mauvaise piste, François Jemmaine? Je poserai évidemment la même question à Stéphane
Smith. Ça me semble être une mauvaise piste et un fantasme politique, l'idée qu'il soit possible de maîtriser les migrations à partir des politiques qu'on déploie dans les pays de destination. En réalité, les migrations sont largement déterminées par des facteurs exogènes dans les pays d'origine, dans le contexte international. Et donc l'idée que le pays de destination puisse, en fonction des politiques qu'il met en œuvre, maîtriser les flux migratoires me paraît tenir largement du fantasme politique. Essayer d'empêcher les migrations, comme je le dis souvent, c'est comme si on voulait empêcher le jour de succéder à la nuit.
Ça pourrait être les empêcher, ça pourrait être aussi les encourager, parce qu'on y trouve un certain intérêt.
Le mieux qu'on puisse faire, je pense, c'est d'essayer de les anticiper, de les organiser au bénéfice de tous.
Stéphane Smith. Je ne vois pas du tout que ça comme une loi naturelle. Je pense que s'il y a évidemment un champ politique, heureusement encore, on peut prendre des décisions. Et d'ailleurs, j'étais en Allemagne la semaine dernière, tout le monde convient. Ils disaient, nous avons cru qu'on ne pouvait pas fermer, mais on peut fermer des frontières. Après, la question, est-ce que vous voulez être le protagoniste d'une politique du mur ou non? Ça, c'est une autre question. Mais malheureusement, on a pu bloquer 3 milliards de réfugiés syriens et afghans en Turquie en échange de 6 milliards d'euros. On a pu
millions,
le faire.
3 millions, pas 3 milliards.
2 millions, fois, ouais. 3 millions et 6 milliards d'euros. Et donc, on peut le faire. C'est pas un problème. Aujourd'hui, on bloque les gens en Libye. Il y a 1 million de gens qui sont bloqués. Qui va dire qu'on ne peut pas le faire? Bien sûr que l'Europe peut le faire. Mais est-ce que c'est souhaitable? Donc, il faudrait.
Oui,
on ne peut pas anticiper
c'est
des
le
politiques
sens de ma question,
si on nie les, questions, oui. les faits.
Mais justement, au-delà de la faisabilité de ces politiques, Stephen Smith, c'était le sens de ma question. Est-ce que c'est souhaitable? C'est-à-dire, est-ce que, diriez que aujourd'hui et dans les années à venir, l'Europe a intérêt, par exemple, à accueillir, à favoriser ces migrations africaines, parce qu'au regard notamment justement de sa démographie et de ses structures démographiques, elle en a besoin?
Non, elle n'a absolument pas besoin. Elle n'a pas besoin parce que vous ne pouvez pas faire un échange standard démographique. Vous ne pouvez pas dire nous sommes trop vieux et donc on va en quelque sorte importer de la chair à retraite. C'est aberrant. Ce sont des êtres humains spécifiques qui arrivent. Vous ne pouvez pas dire on manque de jeunes donc on va importer des Africains. Je ne sais même pas comment on a pu se fourvoyer dans une telle idée. Mais la question est, vous avez des politiques à mettre en œuvre en matière de migration. Il faut avoir la notion du voisinage. L'Afrique et l'Europe sont des voisins. Il ne s'agit pas d'être les meilleurs amis du monde ou d'être hostiles. Il s'agit de s'arranger. Et un continent va doubler sa population, être 2,5 milliards. Et les Européens vont toujours être 500 millions en 2050 et plutôt vieillissants. Et là, vous avez évidemment une tension qui va se traduire par une pression migratoire dont nous avons constaté qu'elle sera d'un grand ordre sans y mettre un chiffre.
Du coup, je repose la question qu'on pose aujourd'hui. L'Europe doit-elle encourager ou décourager les migrations africaines? Comment est-ce que vous y répondriez, François Jemmaine?
Je pense que ce n'est pas à l'Europe de se positionner dans ce débat et de dire quelque part à l'Afrique où est son intérêt. Et quelque part, ça sera les gouvernements africains et surtout les gens eux-mêmes qui décideront si la migration est dans leur intérêt.
Mais ils veulent quand même venir ici, donc il faut bien qu'on ait une position.
Non, je pense que certains...
Ah mais ils viennent en Europe, donc il faut une politique européenne. On ne peut pas dire laissons-les décider.
Et comme je le dis, aujourd'hui le problème, c'est que nous sommes sans cesse dans une posture réactive face aux migrations et qu'on ne les anticipe pas du tout et qu'on n'essaie pas du tout de les organiser. Si on essaie de les organiser en considérant les pays africains, non pas comme des sous-traitants et des subalternes, mais comme de véritables partenaires dans la gestion des politiques migratoires, à ce moment-là, je pense qu'on pourrait organiser les migrations, y compris les migrations économiques, qu'on voudrait pour le moment renvoyer complètement en Afrique, dans l'intérêt à la fois du pays d'origine et du pays de destination.
Et dans l'intérêt du pays d'origine et du pays de destination,
François Jemmaine. Et donc ce n'est pas l'Europe uniquement de décider, je pense que ça doit se décider, les politiques migratoires doivent être décidées en partenariat entre les pays d'origine, les pays de transit et les pays de destination.
L'Europe a quand même un élément qu'elle maîtrise, a priori. Je reviens quand même sur la question des frontières, François Jemmaine, c'est-à-dire, est-ce que vous diriez que quoi qu'il arrive, qu'on les laisse ouvertes ou qu'on les ferme, les frontières, ça ne change rien aux migrations. Et donc, il vaut mieux quoi? Il vaut mieux les laisser ouvertes pour qu'il y ait une forme de régulation peut-être de ces migrations?
Je le crois, oui. Une erreur qu'on commet souvent, c'est de penser que les frontières, en tout cas le degré d'ouverture ou de fermeture des frontières, c'est l'élément déterminant des migrations et que quelque part, si on laisse les frontières ouvertes, tout le monde va venir, tandis qu'à l'inverse, si on les fermait, on empêcherait les gens de venir. Ce n'est pas vrai. Votre livre le montre bien d'ailleurs, que les migrations obéissent à des facteurs structurels de développement, de démographie, etc. Et que ce n'est pas une frontière fermée en Europe qui va décourager les Africains de partir ou de tenter leur chance. Et qu'à l'inverse, ce n'est pas parce qu'une frontière en Europe va être ouverte que d'un coup, tout le monde va s'y précipiter. Or, l'effet de la fermeture des frontières aujourd'hui, c'est de créer un drame humanitaire en Méditerranée, qu'il faut quand même rappeler et dont on n'a pas encore parlé, avec quasiment 40 000 morts depuis le début des années 90. Si je prends le chiffre de 2018, on est à 2160 morts en Méditerranée. Donc c'est un drame humanitaire qui continue et que quelque part nous provoquons par la fermeture des frontières. Et donc si on veut l'empêcher et si on veut aussi tuer dans l'œuf le business des passeurs, il faut absolument recréer des voies d'accès sûres et légales vers l'Union européenne. Cette politique de fermeture des frontières n'est pas tenable.
Stephen Smith.
C'est vraiment pas réaliste de penser que sur un continent où tout le monde rêve de partir, et on le ferait si on était à leur place, où tous les sondages, tous les moyens que vous avez, les études anthropologiques, les anthropologues ne donnent même plus de chiffres, ils disent tout le monde veut partir. Vous faites des sondages, mais pas un institut de sondage. Au Nigeria, 75% des gens veulent partir. Heureusement pour l'Europe, ils n'en ont pas encore les moyens. Mais comment peut-on dire on va ouvrir les frontières et ça va diminuer le drame humanitaire en Méditerranée, qui du reste est moins grave, heureusement, que celui dans le désert du Sahara. Mais je pense que c'est l'irresponsabilité de dire...
Oui, parce que vous dites dans votre livre qu'un migrant prend moins de risques à traverser la Méditerranée qu'une femme
risque
a accouché de je ne sais plus dans quel pays, je crois que c'est au Soudan.
Au Sud-Soudan, quatre fois moins. Mais bien sûr, comme nous ne connaissons que quasiment rien à l'Afrique et à la quotidienneté africaine, on serait bien en mal de dire comment on vit avec $1 par jour. Et que dans notre ignorance, on pense que les gens s'enfuient de l'enfer, ils sont tous pauvres, ils viennent vers nous et c'est le paradis. Mais ce n'est pas ainsi. Mais nous ne pouvons pas abandonner notre responsabilité politique. Il faut bien déterminer qui va venir en Europe et c'est les Européens qui doivent le déterminer, qu'ils se concilient avec les Africains après. Très bien, mais ils ont un intérêt vital de déterminer qui vient chez eux.
Ce n'est pas la fermeture des frontières qui va déterminer ça. Ça va être les politiques économiques notamment qui vont être menées avec les pays.
Dans ma maison, la porte ouverte ou fermée détermine qui entre ou non.
Cette responsabilité politique, est-ce qu'elle passe aussi par, je sais pas moi, davantage de coopération, davantage d'aide au développement? Si on fait le constat que les Africains veulent quitter leur pays, leur village d'abord, leur pays et ensuite leur continent pour une vie meilleure, est-ce qu'il ne faut pas les aider à avoir les conditions d'une vie meilleure sur place, avec l'idée quand même que quand ils vont atteindre un certain niveau économique, ils auront justement les moyens de migrer davantage et qu'il faut se dire, bah voilà, pendant quelques années, on accepte beaucoup plus de migrations africaines et ensuite, ça se régulera à nouveau peut-être vers à la baisse.
Stéphane Smith. Je suis totalement de votre avis. Je pense que si on a arrêté cette discussion insensée sur les frontières fermées, qui est un extrême, ou ouvertes, qui est l'autre extrême, on pourrait commencer à parler d'une migration circulatoire avec des conditions, des contingents qu'on négocie, des gens qu'on fait venir avec des visas pluriannuels. Vous pouvez rester 3 ans, vous ne venez pas avec votre famille, vous rentrez chez vous et en échange de votre départ, quelqu'un peut arriver. L'idée n'est pas du tout de créer une frontière hermétique, ça c'est un couloir de la mort, mais une frontière ouverte, une contradiction dans les termes. Donc il faut inventer, je pense qu'il faut aussi mobiliser la société civile. Pourquoi ne pas avoir des parrainages, des gens qui s'occupent, pas seulement dire l'État ouvre ou ferme la frontière, mais dire je m'occupe de quelqu'un, je donne des cours de langue et j'apprends ce que c'est l'altérité, l'étranger qui se mue en voisin et qui devient mon compatriote. C'est une pédagogie. On aurait une conversation autrement plus responsable si chacun d'entre nous savait combien ce travail est dur et de longue haleine.
François Gemène.
Les migrations circulaires ou les systèmes de parrainage, effectivement, je pense, sont des mécanismes à encourager. Simplement, ils ne sont pas possibles aujourd'hui en Europe, dans l'état actuel de la fermeture des frontières. Une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de migrants sans papiers sont coincés à l'intérieur des frontières européennes et ne rentrent pas dans leur pays, alors qu'ils souhaiteraient parfois revoir des enfants ou des parents, c'est simplement parce qu'ils savent que s'ils rentrent, ils risquent bien de ne plus jamais pouvoir revenir. Et donc, pour avoir des migrations circulaires, et je pense effectivement que c'est un des axes sur lesquels on peut travailler, il faut absolument avoir des frontières qui soient davantage ouvertes qu'elles ne le sont aujourd'hui.
Mais légalement.
Oui, peut-être que s'ils ne rentrent pas, c'est aussi parce qu'ils se disent qu'ils vont retrouver la situation qu'ils ont quittée, ce qui suppose aussi que...
Non, je parlais de rentrer de façon temporaire pour visiter parents ou enfants.
Mais sur la question justement de l'aide au développement, vous disiez, bon, c'est pas l'Europe de dire aux Africains ce qu'ils doivent faire, mais l'Europe peut quand même contribuer, en tout cas, à faire en sorte que des changements suffisamment importants se fassent en Afrique pour que l'Afrique puisse aussi garder sa population sur son sol. C'est peut-être son intérêt, d'ailleurs. Est-ce que c'est son intérêt, d'ailleurs, à l'Afrique, d'avoir des migrations africaines importantes à l'extérieur du continent ou, au contraire, de garder un maximum de personnes sur son sol, François Genet?
Encore une fois, ça dépend des pays. On a aujourd'hui des pays en Afrique qui vont encourager l'émigration. C'est le cas du Maroc, par exemple, dont à peu près 10% du PIB dépend des remises d'épargne. Il y a d'autres pays qui vont essayer de décourager plutôt l'émigration. Ça dépend de la structure économique du pays. Je pense que c'est toujours délicat de parler de l'Afrique comme si, au fond, c'était un seul pays uniforme. C'est un continent extrêmement varié.
Mais juste avant de redonner la parole à Stephen Smith, du coup, si on accepte que des pays de départ, en tout cas, puissent avoir des politiques, soit d'encouragement, soit de découragement, est-ce qu'on peut accepter le fait que en Europe, il y a aussi ces différentes politiques, c'est-à-dire soit d'encouragement, soit de découragement?
Alors, la question de l'aide au développement, effectivement, est importante. Je pense que le problème qu'on a dans la manière dont on va concevoir l'aide au développement de plus en plus en Europe, c'est qu'on va la considérer comme un instrument de contrôle et de régulation des migrations. Et qu'on va dire, soit on va augmenter l'aide au développement pour décourager les migrations. Le problème, c'est que la relation n'est pas aussi mécanique que cela et que parfois, un pays qui va se développer, vous le dites notamment dans votre livre, va avoir un taux d'émigration supérieur. Un élément, je pense, qui va être essentiel et une structure, quelque chose de véritablement structurant, dont vous parlez assez peu dans le livre, Stephen Smith, c'est la question du changement climatique. Aujourd'hui, le gros enjeu, à mon sens, pour l'Europe, c'est de faciliter l'adaptation des pays africains aux impacts du changement climatique. L'Afrique sera le continent qui sera le plus durement touché par les impacts des changements climatiques. Et c'est cela qui va véritablement compromettre les processus de développement à l'œuvre dans de nombreux pays africains.
Stephen Smith.
Je ne parle pas du changement climatique parce qu'il va venir, je suis d'accord avec vous, mais il est peu quantifiable. Imaginez le livre que j'aurais publié avec, en tenant compte du changement climatique et en disant on aurait beaucoup, beaucoup de réfugiés climatiques. Vous auriez été le premier à me dire que ce serait irresponsable. Donc je m'en tiens à ce que je peux prévoir. Mais je pense qu'il faut concevoir que l'Afrique ne trouve aucun intérêt dans cette exportation de ces hommes et ces femmes les plus dynamiques, pas forcément toujours les plus diplômés, parce que ces gens-là renvoient de l'argent gratuit qui est un don à leur famille. C'est pas des investissements, c'est pas ça qui va développer l'Afrique. Donc l'Afrique n'a aucun intérêt, des gouvernements peut-être, puisqu'on envoie aussi des gens un peu rebelles à l'étranger, et donc eux, ils envoient de l'aide sociale à leur famille. Ça fait toujours un coussin, mais ce n'est pas un développement.
Eh bien, c'est sur ces propos que nous allons interrompre cette conversation puisque l'émission est terminée. Je vous remercie Stephen Smith et François Gemmel. Je renvoie à vos deux ouvrages récents sur le sujet, La ruée vers l'Europe, pour vous Stephen Smith, publié chez Grasset, et pour vous François Gemmel, Au-delà des frontières pour une justice migratoire, ouvrage publié aux éditions Espace de Liberté. Alors, vous avez noté que depuis ce matin sur France Culture, nous vous proposons la lecture de certains articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme dont nous fêtons aujourd'hui le 70e anniversaire. Nouvel article justement avec l'écrivain Sylvie Granotier.
Article 26. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous, en fonction de leurs mérites. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes, raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Mais un grand merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richet, Antoine Tricot, Virginie Ledoux, Antoine Dulster, Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Peyrey Legras avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan. Demain, les circuits de l'information de l'État sont-ils grillés? On s'intéressera à la façon dont circule l'information au sein des services de l'État. Tout de suite, c'est la dispute et c'est avec Arnaud Laporte.